Přes 460 novinářů nejčtenějšího francouzského deníku Le Monde na začátku září vyzvalo v otevřeném dopise svého minoritního akcionáře a českého miliardáře Daniela Křetínského, aby jim písemně zaručil vydavatelskou nezávislost a redakční svobodu. To se nestalo. Obchodní partneři Daniela Křetínského ale v pondělí po několika týdenním tlaku podepsali dokument, ve kterém garantují redakci, že bude mít vliv na budoucí vlastnickou strukturu, včetně volby akcionářů. Hostem DVTV je teď po FaceTimeu ředitel deníku Le Monde Jérôme Finoglio. Bonjour.
Bonjour.
Alors, suite à la signature du droit d'agrément réclamé par les rédactions, est-ce qu'on peut parler de soulagement au Monde?
Oui, on est soulagé parce que du coup, on considère que nos droits sont maintenant protégés par cette possibilité supplémentaire qu'il y aura de pouvoir discuter avec quelqu'un qui permettra d'avoir un dialogue, qui permettra d'achever par un vote. Et ça, c'était vraiment très important pour nous, parce que on peut discuter avec des nouveaux actionnaires, mais encore faut-il pouvoir voter quand la discussion s'arrête.
Alors pourquoi est-ce que vous aviez ressenti de la peur ou du moins de la méfiance à l'égard de M. Křetínský?
Alors il n'y avait aucun procès d'intention, il n'y avait aucun a priori défavorable, c'est simplement que les conditions de son arrivée dans le capital de M. Pigas c'était fait dans l'opacité la plus totale. On n'avait pas été prévenu. La société des rédacteurs, le pôle d'indépendance du journal, qui sont des acteurs majeurs du capital, n'étaient pas au courant. Et donc c'est vrai que quand il y a de l'opacité, ben, on a toujours un doute. On se dit, mais pourquoi des choses nous ont été cachées? Et donc c'est ces conditions d'arrivée qui étaient pour nous suspicieuses, qui font que
et qui sont
on a voulu
aujourd'hui
avoir des garanties. Non, on ne sait pas exactement pourquoi à l'époque. Alors M. Pigas dit que c'était maladroit. Et de fait, oui, c'était extrêmement maladroit, parce que je pense qu'au Monde, quand il y a un changement aussi important dans le capital, ça méritait d'en parler à tout le monde. Donc il a reconnu qu'il y avait eu une maladresse très forte au début. Mais le soupçon était lié seulement à ça, seulement à ces conditions d'arrivée avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas et dont on se disait pourquoi on nous a caché les choses. C'était absolument pas lié ni à la nationalité de M. Křetínský. Nous sommes très ouverts à l'Europe. Comme vous le savez, nous avons des Espagnols dans notre capitale. Et c'était vraiment pas ça la question, en l'occurrence.
Lors d'un entretien pour l'hebdomadaire français Le Point, qui a eu lieu en avril 2018, dans les bureaux de Daniel Křetínský à Prague, rue de Paris d'ailleurs, l'homme d'affaires avait expliqué ses investissements en France de la manière suivante, je cite, « Les forces économiques ne vont pas à la presse traditionnelle, or je veux convaincre que le produit sur papier a toujours du sens et qu'il faut le garder. » Donc une approche plutôt optimiste de l'avenir de la presse écrite, y compris du Monde. Est-ce que ce n'est pas plutôt une bonne nouvelle pour vous?
Oui, alors cette déclaration est censée être rassurante. Moi, elle m'inquiète un peu en réalité parce que ça prouve une méconnaissance assez forte alors, de ce qu'est la presse aujourd'hui. Évidemment qu'il y a un aspect papier qui continue à importer, mais si aujourd'hui Le Monde est un journal qui va très bien, c'est avant tout parce qu'il se développe sur le numérique. Donc le numérique n'est pas un danger. Le numérique est une chance pour les grands journaux qui restent des journaux de qualité. Donc oui, c'est très optimiste, c'est très bien, mais cette vision des grands journaux uniquement comme étant imprimés sur du papier, bon, moi, ça me laisse penser qu'il y aura tout à gagner à discuter avec M. Křetínský, à lui donner notre point de vue, à lui expliquer à quel point nous avons avancé sur un certain nombre de chantiers et d'innovations, et à quel point aujourd'hui le numérique est une très bonne chose.
Alors,
on ne peut plus être décrit aujourd'hui comme un journal sur papier.
Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de parler en tête-à-tête avec M. Křetínský?
Non. Aucun membre du directoire n'a discuté avec M. Křetínský pour la bonne et simple raison que ce que nous demandions, c'était que cette discussion puisse éventuellement déboucher ensuite sur un avis, un vote de notre pôle d'indépendance qui protège notre indépendance éditoriale. Ça ne sert pas à grand-chose de discuter si au final on ne peut pas donner un avis, vous comprenez? Et donc aujourd'hui qu'il y a ce droit d'agrément qui a été reconnu au cas où M. Křetínský ou un autre actionnaire deviendrait des actionnaires majoritaires, alors nous pouvons discuter, nous pouvons avoir un contact, nous échangerons nos points de vue sur, par exemple, ce que vous venez de dire par rapport à la presse papier et à la presse numérique, et nous aurons ces échanges qui pourront se conclure si un jour M. Křetínský voulait devenir majoritaire par un vote de la rédaction.
Donc en d'autres mots, aucun rendez-vous n'est prévenu pour l'instant, n'est prévu avec M.
Non, pour l'instant, il y a pas de...
en tant que directeur du Monde?
Non, pour l'instant, il n'y a pas de rendez-vous qui est prévu, bah, parce que en fait, tout ça est tout récent. Nous, on avait dit qu'on ne discuterait pas avant d'avoir cette protection, avant d'avoir ce cadre de discussion qui est le droit d'agrément. Bon, à partir du moment où ce droit d'agrément existe maintenant, je pense qu'on pourra discuter. En tout cas, moi, dans l'éditorial que j'ai fait aujourd'hui, j'ai dit que nous étions tout disposés maintenant à discuter avec M. Kretinsky pour comprendre vraiment ce qui le motive dans cette apparition dans le capital du monde en tant que minoritaire, puisqu'aujourd'hui, M. Pigas nous dit que M. Kretinsky a vocation à rester minoritaire.
Donc ces motivations-là, vous ne les connaissez toujours pas ?
Il y a ce qu'on a lu dans la presse, mais ce ne sont pas des considérations très précises. Et comme je viens de vous le dire...
C'est-à-dire le côté francophone et francophile ?
Le côté francophone et francophile est indéniable. Il parle très bien français et c'est formidable. Et par ailleurs, le côté européen de M. Kretinsky est quelque chose qui est tout en sa faveur. Nous sommes pour une ouverture du capital du monde au-delà des frontières. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Nous défendons, nous avons une vision très internationale des choses au monde. Donc ce n'est pas nous qui allons nous plaindre de ça. Le côté francophile est très sympathique et nous l'apprécions. Mais maintenant, il faut parler très concrètement, très sérieusement de notre évolution, là où nous en sommes aujourd'hui et que M. Kretinsky ne peut pas bien connaître puisqu'on n'a pas commencé à parler, et aussi de quelles sont réellement, oui, ses motivations d'entrer dans le capital du monde. Oui, je pense que ça demande des discussions plus précises que des grands principes généraux qui font plaisir à tout le monde.
Il y a presque un an, vous avez déclaré sur France Inter que vous alliez enquêter sur, je cite, et je garde votre prononciation française, qui est ce monsieur Kretinsky ? Votre conclusion ?
On a fait des enquêtes comme on a fait sur nos autres actionnaires. Il apparaît que monsieur Kretinsky est quelqu'un qui a fait une fortune rapide, donc comme vous le savez, notamment dans le secteur de l'énergie. Je pense que c'était important pour nos lecteurs, et on l'a fait aussi pour nos actionnaires qui sont devenus nos actionnaires majoritaires en 2010. C'est important pour les lecteurs français, les lecteurs du monde, qui sont de plus en plus nombreux et qui sont très attachés à son indépendance, d'avoir le portrait le plus précis et le plus complet d'une personne qui est susceptible de devenir un actionnaire important du monde.
Quand vous parlez de fortune rapide, qu'est-ce que vous en déduisez ? Est-ce que ça vous semble suspect ?
Bon, je n'en déduis rien du tout à l'heure qu'il est. Nous avons fait une enquête qui est très précise, qui est très fouillée. Monsieur Kretinsky a eu à un moment des intuitions très justes, je pense, très justes d'un point de vue, on va dire, économique. Hein. Après, on peut ne pas partager ses partis pris par rapport aux questions climatiques qui se posent, mais en tout cas a senti à un moment qu'il y avait un secteur économique qui était délaissé et dont on aurait encore besoin pendant des années, celui de la production d'électricité. Donc nous avons décrit tout ça, et c'est vrai que ça a généré assez rapidement, avec le soutien de proches de lui qui sont des personnes fortunées, comme on l'a expliqué, un investissement très rapide lié à des bons choix économiques et une stratégie qui s'est révélée extrêmement payante.
Quelle est l'image publique de M. Kretinsky en France actuellement ?
Monsieur Kretinsky n'est pas encore très connu en France. Hein. Il a accédé à la notoriété l'année prochaine, d'abord en rachetant plusieurs journaux du groupe Lagardère. L'année dernière, oui, absolument. Oui. Et il a accédé donc à cette notoriété à ce moment-là, et puis aussi, évidemment, en étant candidat à l'entrée au capital du monde. Donc on ne peut pas dire que ce soit encore des faits qui le fassent connaître du grand public. Il est accueilli avec une forme de curiosité. Tout le monde voit bien qu'il y a des déclarations extrêmement bien intentionnées vis-à-vis des journaux, vis-à-vis de la France, mais tout le monde se demande aussi pourquoi cet intérêt massif et rapide par rapport à la France, sachant effectivement qu'il y a aussi des marchés dans les secteurs de l'énergie qui peuvent intéresser M. Kretinsky. Nous avons complété nos enquêtes récemment avec un article qui montre que M. Kretinsky a un intérêt qui remonte à plusieurs années pour le marché de l'énergie en France, puisqu'il a rencontré à plusieurs reprises des hauts responsables français depuis 2016.
Donc, qu'est-ce qu'il vous faudrait découvrir ou entendre pour que votre doute se dissipe totalement ?
Pour que le doute se dissipe, on avait dans un premier temps besoin d'actes de la part à la fois de M. Kretinsky et de M. Pigas aussi, hein, puisque M. Pigas est le vendeur et qui reste pour l'instant à notre capital en tant que majoritaire. Cet acte, il vient d'être fait, parce qu'à un moment, les paroles, c'est sympathique, et encore une fois, elles peuvent être très plaisantes, mais à un moment, il faut aussi avoir des actes.
Et oui, mais il n'a pas été fait du côté de M. Kretinsky. Cet acte n'a pas été signé, vous n'avez pas reçu ces garanties-là de la part de M. Kretinsky, si je ne me trompe pas.
Ah oui, mais c'est pas grave, comme M. Pigas est, à l'heure qu'il est, l'actionnaire majoritaire, l'engagement de M. Pigas de respecter un droit d'agrément de la rédaction si M. Kretinsky devrait majoritaire, engage M. Kretinsky tout autant que M. Piga. Ça, c'est pas, ça, c'est maintenant pour nous un problème réglé. M. Kretinsky sera obligé de se conformer à ce vote de la rédaction s'il devait devenir majoritaire. Donc ça, c'est vraiment pas un problème maintenant, et c'est très bien. Donc, il nous fallait cet acte, qui est un premier acte fait en toute confiance, devant tout le monde, en transparence, et qui nous permet maintenant de pouvoir discuter sérieusement avec M. Kretinsky. Discuter de quoi ? Discuter de stratégie industrielle, discuter de sa vision des choses et de la presse française. Vous avez cité tout à l'heure une vision très tournée vers le papier, un peu, à mon avis, tournée vers le passé. Bon, ben, on va lui décrire le présent et l'avenir de notre journal, et on va voir si, si finalement nos visions concordent, si on arrive à le convaincre qu'on a évolué, s'il peut amener des idées nouvelles, et puis on verra si on arrive à s'entendre et s'il peut amener quelque chose de positif pour le groupe Le Monde.
Monsieur Fenoglio, merci beaucoup pour le temps que vous avez accordé à DVTV.
Merci à vous.